Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre autour du portrait d'un homme dont on a beaucoup reparlé ces derniers temps, depuis que Fabrice Luchini a obtenu un grand succès en lisant ses textes sur scène. Cet homme s'appelle Philippe Muret, il est né en 1945 et il nous a quittés en 2006. Philippe Muret était un pamphlétaire dont l'époque constituait l'unique objet d'étude. Cette époque, la nôtre, il est peu de dire qu'il ne l'aimait pas. Trop factice, hypocrite, revendiquant une pseudo-égalité entre les gens, laquelle confine à un aplanissement des différences. Un monde de la fête permanente, porteur d'une idéologie qu'il trouvait lénifiante et aveugle à la réalité du monde. Pour Muret, cette désastreuse comédie trouvait son origine dans Mai 68 et ses slogans « Faites l'amour, pas la guerre, désirez l'impossible, l'imagination au pouvoir ». Mais Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin, à qui l'on doit ce documentaire, montreront qu'il était pourtant, lui aussi, un homme de mai 68. Il avait 23 ans à l'époque et participait au bouillonnement intellectuel du moment. Jusqu'à la fin, il aura porté en lui, d'une certaine manière, cette veine libertaire de mai 68.
Philippe Lanson, vous pouvez en quelques mots expliquer la théorie de Philippe Muret sur son époque ?
Je ne suis pas certain qu'il y ait une théorie. Je pense plutôt qu'il y a une pratique subversive de l'époque. C'est-à-dire qu'il se retrouve face à des mouvements idéologiques, sociaux, familiaux, politiques, tout ce que vous voulez, qui, à partir, disons, des années, fin des années 70 et années 80, sont identifiés par lui à l'occasion d'un séjour universitaire à Stanford, et qu'on pourrait mettre sous cette grande casquette qui ne veut plus rien dire aujourd'hui de politiquement correct, mais qui à l'époque effectivement avait sans doute un sens, ne serait-ce que parce qu'elle n'était pas nommée. Et donc il voit arriver en fait à l'œuvre quoi, une sorte de nouvel ordre moral, avec de nouveaux critères qui sont liés à l'évolution des mœurs, des rapports entre les individus, entre les sexes, à la santé, à l'espace public. Et donc, il identifie ça et il joue à ridiculiser, à caricaturer, à démonter, à jouir finalement de la bêtise de ça. C'est-à-dire que toute idée qui est affirmée, tout mouvement nouveau qui arrive, porte en lui sa propre bêtise, vous voyez, au sens où il porte sa propre majorité. Des gens qui ont conscience de faire masse et de faire groupe, et d'incarner une forme de bien, de vertu, etc. Alors, il est toujours bon qu'il y ait des gens comme Muret pour dégonfler ces baudruches. Mais il les dégonfle d'une manière un peu particulière, puisqu'il les dégonfle par le style. Et j'allais dire, il les dégonfle en enflant, lui, puisque lui, c'est un baroque. Donc, c'est l'homme qui aime Rubens, c'est l'homme qui aime Baudelaire.
Il me semble qu'il y a eu, tout au long des siècles, une progression de l'esprit critique.
Entretien de Philippe Muret avec Pierre Assouline.
Qui s'est accompli dans ce qu'on a appelé les Lumières, et qu'aujourd'hui, les héritiers de l'âge des Lumières, majoritairement, ne peuvent plus supporter les manifestations de l'esprit critique qu'ils estiment des manifestations d'hostilité vis-à-vis de ce nouveau monde.
Mais depuis quand ?
Et que je pense qu'il y a, il y a eu un basculement à un certain moment. Je ne peux pas le dater exactement, mais c'est assez récent. Ça me paraît assez récent. La criminalisation, entre guillemets, de la vision critique du monde me paraît assez récente.
C'est pas un mot un peu fort, criminalisation, même entre guillemets ?
Pas vraiment, non. Je trouve que quand on porte un regard critique sur le monde aujourd'hui, on est très vite taxé de réactionnarisme ou de conservatisme, alors que moi j'ai le sentiment de ne poursuivre que le travail des Lumières, enfin, qui consiste à mettre en doute tout.
Alexandre de Vitry, qui était Philippe Muret ? Il est né en 1945, de quel milieu
Alors il était fils d'un traducteur et auteur de livres pour enfants, qui s'appelle Jean Muret. Alors, il parle assez peu de lui hein, dans ses ouvrages. Il dit qu'il a eu des très bons parents. Il a fait des études de lettres à la Sorbonne. qui n'ont pas duré très longtemps. Il est très vite devenu un peu journaliste ici, un peu rewriter là. Il a voilà, fait énormément de travaux alimentaires dans le monde de la littérature dans un sens très très large.
Il a écrit un premier livre en 1968.
Il a écrit un livre très jeune qui s'appelait Une arrière-saison.
Mais alors ce livre, ça ressemble aux autres, c'est un pamphlet ?
Alors pas du tout, c'est un petit roman sur un trio amoureux.
Est-ce que ça ressemble à l'année à laquelle
Ah non, ce n'est pas très 68. Non, ce n'est pas très 68, mais il y a quand même un esprit, notamment aussi dans ses ouvrages suivants, parce qu'il y a aussi une série d'ouvrages des années 70 dont, qu'on a complètement oubliés, qui sont très difficiles à trouver, comme Chant pluriel, un autre roman en 73, ou une pièce de théâtre qui s'appelle Au cœur des Hachloums. Bon, et tous ces livres-là sont encore assez marqués par un esprit qu'on pourrait désigner comme un esprit des années 70, un peu avant-gardiste, un peu solercien même.
Ah, donc c'est 68.
Donc c'est un peu 68 d'une certaine manière, mais avec déjà en fait l'avènement de toutes les prémices de l'œuvre de Muret à venir, à savoir qu'il est obsédé par la masse, par l'uniformisation de la société, que il essaye déjà de se créer une position d'extériorité pour décrire le monde, etc. Et il refuse en toute forme de combat au nom de la société. Donc voilà, il y a un caractère avant-gardiste sur le plan littéraire, de la forme. Ce sont des romans plus difficiles à lire que c'est ce qu'il a écrit par la suite, parce que voilà, plus obscur, un peu solercien justement, mais enfin solers de la première période ou solers de paradis, disons. Mais en revanche, sur le fond, disons, vraiment, on est très loin de 68. Ce que
j'aime,
ce que j'aime.
J'aime bien les routiers quand ils bloquent les routes et font de ce pays une longue déroute. J'aime les marins-pêcheurs quand ils ferment les ports et les ambulanciers qui ne portent plus les morts. Ce que j'aime, ce que j'aime. Ce que j'aime, ce que j'aime. J'aime de l'agriculteur, les barrages filtrants et ces hargneux blocus me paraissent épatants. J'aime bien la start-up qui se casse la figure. J'aime la déconfiture de toutes ces raclures. Et j'aime que le patron du groupe Vivendi nous annonce qu'il se charge de tout et resplendit quand il n'est que l'exacte figure contemporaine de la mort qui enfin vit une vie humaine.
Muret, le baroque, c'est ce qu'il aime, comme forme de manifestation de la vie. Et il faut bien comprendre ça pour comprendre aussi les répétitions, les valses de son style. Vous voyez, il trace des lignes qui n'en finissent plus.
Il y a un côté circulaire, obsessionnel dans son œuvre.
Oui, bien sûr. Et donc, elle est évidemment totalement inégale. Il y a des longueurs qui... C'est des longueurs, si j'ose dire, et par pléonasme, qui n'en finissent pas. Parce que de toute façon, c'est vraiment la symphonie inachevée de Schubert, quoi. Vous voyez, c'est les symphonies de Beethoven aussi qui parfois, quand même, ça recommence. Donc, il n'en finit pas, Muret. Vous voyez, il proteste. Mais il proteste en se réjouissant. Et effectivement, donc moi j'aime énormément certains de ses textes. Il y en a d'autres que je trouve quand même très faibles et très redondants, vous voyez. Mais ça ne me gêne pas, c'est pris dans l'ensemble de la chose, vous voyez. C'est bon, il y en a un, non, celui-là, non, puis celui-là, oui. Mais je ne vais pas faire le tri. D'abord, je ne suis pas flic non plus, vous voyez. Donc, alors, vous allez me dire, je suis critique, donc le critique fait le tri. Oui, on fait le tri. Alors, il y a peut-être des livres, plutôt que des livres. Vous voyez, des articles à réussir, notre athée. Quand on est journaliste, on sait que c'est souvent comme ça. Hein. Et voilà, quoi. Parfois, la cible est mieux appropriée que d'autres fois aussi. Bah oui, c'est la vie, mais il a écrit beaucoup. Et puis, dans le tas, il y a quand même suffisamment à lire pour que le reste soit sans importance. Mais je dirais, comme chez beaucoup d'écrivains d'ailleurs, on n'arrive pas au meilleur sans passer par le pire. Et ça, c'est bien une idée contemporaine de l'efficacité, vous voyez, un peu anglo-saxonne, là, vous savez, avec le « tout doit être efficace », le récit, l'écrivain, voilà. Et le lecteur qui doit évidemment aller naturellement au best-of. Eh bien non, on ne va pas au best-of, on prend les choses comme elles viennent, et puis c'est comme ça qu'on accède aussi à ce qu'il y a de mieux. Parce que je pense que si on ne lit pas le reste, ou en tout cas si on on ne l'a pas assez lu, on n'est pas à même non plus d'apprécier ce qu'il y a de mieux.
Philippe Muret, j'ai envie de commencer en vous posant une question. Quel adjectif pourrait vous définir ?
Entretien de Philippe Muret avec François Angelier.
Est-ce que le mot d'intempestif, qui est un adjectif nietzschéen, pourrait convenir ? D'irrédent, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas se rendre, de dissident, vous êtes... Si on essaie de vous adjectiver, qu'est-ce qu'on peut trouver ?
Outsider.
Outsider, oui.
Mais je oui, mais je ne me sens pas dans une position héroïque. J'essaye de peut-être, ça c'est vous qui le dites. Moi j'essaye d'analyser, d'observer, de raconter ce que je vois passer. Si mon désaccord est total avec ce que je vois, je fais, c'est vrai, peu d'efforts pour réduire ce désaccord. Dans les temps contemporains, il est beaucoup plus difficile de vitupérer, si vous voulez, qu'autrefois, quand on pouvait s'appuyer sur une...
Vous ne vitupérez au nom de rien.
Transcendante.
Au nom de rien de transcendant, au nom,
au nom de l'esprit critique. C'est déjà pas si mal. C'est déjà assez transcendant par rapport à l'immanence actuelle.
François Taillandier, comment vous avez rencontré Philippe Muret ?
Alors, j'ai rencontré Muret par l'intermédiaire de l'Atelier du Roman, qui est une très belle revue qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, je crois. Là, j'ai eu cette revue par hasard. Elle m'a intéressé parce qu'il y avait des auteurs que j'ai découverts là et qui d'emblée m'ont intéressé. Donc, j'ai pris contact avec la revue et là, j'avais lu le premier texte que j'ai lu de ma vie, de Philippe Muret. Je me suis dit, alors là, ce type est étonnant. Voilà. Et par la suite, donc, j'ai rencontré... je me souviens plus. Ça faisait partie des textes qui ont été recueillis dans ces volumes de chroniques, etc. Je ne sais plus lequel c'était, hein, mais il y avait un ton, une espèce de hargne, de drôlerie en même temps, qui m'a tout de suite séduit.
Alors, quel est le bruissement de l'époque qu'il saisissait ?
Ah, alors ça, c'est la grande question, parce qu'on le sent très bien quand on le lit, et c'est extrêmement difficile à définir, je pense. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui a entendu le discours de l'époque sur elle-même, notamment à travers les médias, à travers les propos des politiques, à travers les expressions que tout le monde fait, ou les façons de dire que tout le monde finit plus ou moins par adopter sans réfléchir. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a augmenté le son. Il y a toutes sortes de discours auxquels on prend pas forcément très garde, mais qui forme un bain, c'est le bain de l'époque, et lui a augmenté le son, c'est-à-dire qu'il nous dit écoutez donc ce que l'époque dit d'elle-même. Et il l'a recopié avec beaucoup de patience, et il en ressort un tableau burlesque en fait de notre temps et de ses façons d'être.
C'est aussi écouter ce qu'on vous dit de faire.
Oui,
enfin,
oui.
Je pense
il y a quelque chose de très...
Oui.
Pardon,
enfin,
oui.
Faites la fête.
Ah bah oui, faites... oui le festivisme... Oui. Oui, une certaine façon de s'unanimer à travers des procédures sociales supposées réconciliantes et qui sont en même temps une négation éclatante du réel. Ça c'est toute la pensée de Muret sur le festivisme, c'est complexe. Mais en effet, je crois que l'époque, enfin toutes les époques d'ailleurs, mais celle-ci en particulier, elle n'est pas du tout libertaire ou libérée comme on le prétend. Je crois qu'elle donne des instructions très précises sur ce qu'il faut être, sur ce qu'il faut penser, sur la façon dont on doit voir les choses et dont on doit leur réagir. Voilà. Et je pense que l'œuvre de Muret essaye de montrer ça, avec des moyens esthétiques qui sont les siens et qui sont extrêmement performants vis-à-vis dans ce but. Voilà.
Et ça, c'est spécifique à notre époque, enfin, aux 20 ou 30 dernières années.
Non, moi, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il en aurait dit, mais... c'est de toutes les époques, ça c'est de tous les temps. Simplement, lui a codifié la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Et il est, à ma connaissance, le premier à le faire. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque qui a l'impression d'être affranchie de bien des choses, hein, de toutes sortes de discours, de morale, que la société précédente tenait aussi, mais différemment. Alors on a l'impression d'être sorti de certains discours traditionnels sur les mœurs, sur la morale, sur toutes sortes de choses. Et lui montre que ce n'est pas du tout une émancipation de quoi que ce soit, c'est simplement la reformation d'une autre idéologie dominante, devant laquelle on peut être silencieux, mais contre laquelle personne ne s'élève véritablement. Voilà. Et encore une fois, je crois que son travail, ça a été de la dessiner, de la faire percevoir, cette idéologie.
Il y a une industrie de l'éloge qui enveloppe les mutations et les métamorphoses de notre époque.
Entretien de Philippe Muret avec Alain Finkielkraut.
Les événements les plus burlesques, ou les plus grotesques, ou les plus effrayants ou redoutables. Et cette industrie de l'éloge, qu'on trouve très facilement dans le discours médiatique, se développe comme le tissu par lequel l'époque se tresse à elle-même des couronnes. Et de manière à interdire qu'un regard, un étonnement, une critique, une distance par rapport au phénomène qui se passe et qui se succède à un rythme de plus en plus accéléré soit possible. Cette industrie de l'éloge est en même temps une interdiction portée sur l'esprit critique. Et elle enveloppe comme une nuée l'époque contemporaine en bouleversement continuel. S'il y a un malaise, à mon avis, il est là. Dans cette présence de la nuée et de l'industrie de l'éloge, dont je parle en fait constamment, qui, comme probablement jamais, interdit, ou en tout cas rend très difficile, une pensée critique.
Quand on se dit fuck, je te défonce la gueule, tout en insultant les papas, les mamans. Au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? Quand on se dit fuck, mais qu'est-ce qu'on attend ? Des bisous, 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 des bisous.
En 1984, il écrit le 19e siècle à travers les âges. Et de quoi, selon Philippe Muret, le 19e siècle est porteur ? Qu'est-ce qui se joue au 19e siècle qui, un siècle plus tard, donnera ce qu'il déteste ?
C'est justement, enfin je vais le dire vite et de manière très caricaturale, mais c'est ce qu'il voit, lui, évidemment, il identifie un certain 19e siècle qui, à travers, depuis les romantiques jusqu'à Hugo, etc., il y voit finalement le 19e siècle du kitsch de la vertu, quoi. C'est-à-dire la manière dont un certain nombre d'écrivains et d'artistes et d'architectes, voilà, vont littéralement faire... déborder des idées du bien, du progrès, de l'humanisme, à travers des formes généralement pompières, hein, qu'il oppose, lui, effectivement, au baroque. C'est-à-dire qu'il y a donc une sorte de restauration artistique d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de formes anciennes, mais sous une forme kitsch, c'est-à-dire une forme copiée et donc dégradée. Hein, par là même. Un exemple, c'est Viollet-le-Duc qui refait le gothique. Voilà. Alors, Muret a des pages là-dessus, sur cette espèce de revival, comme on dirait aujourd'hui, du gothique, qui lui paraît absolument ridicule, et justement d'évitement du baroque sous toutes ses formes que Baudelaire incarne, c'est-à-dire de quelque chose qui justement est perçu par les chantres de l'humanisme, etc., comme de mauvais goût. Hein? Alors que pour lui, c'est finalement exactement le contraire, puisque c'est un art vivant à ce moment-là et qui se joue beaucoup plus finalement non seulement des formes, mais à travers les formes, des idées, des possibilités de ces idées, vous voyez, qui est dans le jeu. Il y a toujours une idée, moi c'est ce que j'aime particulièrement chez Muret, une idée de jeu. Il joue dans un monde où... Il considère que les gens ne jouent plus parce qu'ils sont sérieux. Hein. Ils sont sérieux avec cette idée de morale, de vertu, etc. De progressisme. Voilà. Évidemment, la grande attaque de Muret, et il le voit au 19e siècle, c'est l'attaque contre le... Je dirais pas contre le progrès, mais contre l'hystérie du progrès. Vous voyez, l'idée que le progrès est la ligne d'horizon, la ligne bleue des Vosges, qu'il s'agit absolument de rejoindre... dans une espèce d'extase qui va nous mener vers le bien, vers quelque chose de mieux. Alors qu'évidemment, quand on est pessimiste, comme il peut l'être, pessimiste au sens où on considère que voilà, finalement l'homme ça change pas beaucoup, tout ça est quand même certes merveilleux, mais enfin un merveilleux petit tas de boue avec toujours les mêmes histoires, etc. Alors vraiment cette idée progressiste est un peu ridicule, quoi.
Je crois que ce qu'il décrit, et je pense que c'était un petit peu son idée, se met en place au cours des années 80. C'est lui d'ailleurs, enfin c'est lui-même qui le dit. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, un brouillage de pistes. Alors là, je veux pas parler à sa place, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, enfin dans notre pays en tout cas. Tout le monde s'imagine que ça va correspondre à un changement, et ça correspond bien, en effet, je crois, à un changement, mais un changement qui n'est pas du tout celui que ce soit prévoyait, alors qui est fait sans doute de l'impuissance politique face à la réalité, qui est fait de l'invasion de la correction politique à l'américaine. Et alors, comme ça, la société invente un peu en tâtonnant des nouvelles formules d'une animation. Le fait est que c'est à cette époque-là que l'idéologie festiviste se met en place. Bon, les fêtes de la musique, les fêtes de ceci, de cela, subitement, ça se répand à ce moment-là. Pourquoi ? Je pense parce que il y a le sentiment d'un échec devant le réel. Et alors, il faut bien le cacher derrière quelque chose.
Mais cet échec devant le réel, c'est l'héritage de mai 68 qui ne fonctionne pas aussi.
Oui, ou qui met en place autre chose. Enfin, mais ça, c'est de l'analyse. Je ne pense pas que Murray l'ait dit en tant que tel, mais je pense que l'idéologie de la révolution était très importante à l'époque. Il y avait le monde tel qu'il était, et puis il y avait ceux qui lui opposaient une idéologie révolutionnaire, au sens très large. Bon. Et finalement, ce n'est pas ça qui s'est produit, parce que ça n'a pas marché, ça. Par contre, je pense que les cadres anciens de la société étaient fragilisés. Tous les cadres se référant à l'autorité patriarcale, à la religion, etc. Bon, tout ça a été ébranlé très fortement. Donc il avait fallu couturer d'une autre façon. Voilà. Et alors, ce qu'il appelle le festivisme, je pense que c'est ça, c'est une façon de réembrigader, mais d'une façon qui a l'air positive, qui a l'air très, très gentille, très, très heureuse, etc. Voilà, très idyllique.
Quelquefois, je pense que mai 68, pas seulement le mai 68 français, mais l'époque de 68, a été le moment où... a été une sorte de moment charnière parce que le mouvement de mai 68 était à la fois peut-être empruntait des éléments des anciennes révolutions, des anciens mouvements historiques, et était et en même temps se présentait comme une fête et non comme comme une révolution jusqu'au bout.
Alors justement, si
il
vous
semble, mais c'est une hypothèse. Je ne sais pas, j'ai pas de date. Il y a d'autres possibilités de
l'homo festivus.
Bah, j'ai donné ce nom-là à l'habitant moderne de notre époque pour essayer, parce qu'il me semble qu'on est dans une période de bouleversement complète et que le vivant actuel ne ressemble que très loin au vivant d'il y a même seulement peut-être 20 ans. Donc je lui ai donné un autre mot, d'une façon, un autre nom, d'une façon expérimentale, pour autant que la fête, qui dans les temps historiques était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne, est devenue, me semble être devenue plus ou moins le tout, ou être en cours, en passe de devenir le tout de la vie quotidienne et le continuum même de la vie. Donc j'appelle l'habitant heureux de cette mutation, je l'appelle Homo Festivus. C'est aussi un nom que je donne pour signifier qu'il y a une métamorphose en cours, que cet homme est anthropologiquement...
Et mutant.
Voilà.
Oui, vous étiez la femme de Philippe Murray. Vous l'avez rencontré en quelle année ?
Je l'ai rencontré en 1971. La première fois que je l'ai vu, c'était en 1971, en février ou mars 71. Et bon, alors, notre vie ne s'est pas nouée aussitôt, mais quelques années plus tard. Et puis, nous avons vécu ensemble, écoutez, pas très loin de 30 ans, quoi. Voilà.
Et en 1971, il faisait quoi, Philippe Murray ?
Il commençait à gagner sa vie, et il a gagné sa vie avec sa plume, dans des travaux divers, qui avaient surtout l'avantage de le rendre absolument indépendant de toute institution, de gérer sa vie comme il l'entendait, de travailler à son heure, de garder sa liberté.
Il était déjà intransigeant avec son époque, en 1971,
quand vous l'avez connu. Ah bah oui, il faut restituer aussi tout ça dans cette époque dont vous avez entendu parler, mais moi que j'ai vécu, on était dans l'après-68. Donc il y avait une espèce d'ébullition intellectuelle tout à fait incroyable à Paris. Moi j'étais très jeune, tout ça était très excitant. Les gens se recevaient beaucoup, on sortait beaucoup les uns chez les autres, on s'empoignait pour des questions idéologiques, etc. Bon, et donc quand j'ai connu Philippe, il était dans cet univers-là qui était le même que le mien, mais il était déjà... Il en avait déjà une opinion qui n'était pas celle de tout le monde. Ça, c'est bien évident. Mais enfin, il y a été. Il en a été le témoin.
Et qui était quoi, cette opinion qui n'était pas la même que tout le monde ?
C'était pas un militant. Je peux pas vous dire les choses autrement.
Il n'était pas politisé.
C'est pas quelqu'un qui peut concevoir d'être dans un groupe, quel qu'il soit. C'est un homme seul. Et il a toujours été, et il est resté. C'était un homme seul. Donc on imagine assez mal s'embarquer dans des grandes envolées lyriques.
On sent les années 70 dans Minimum Respect. Il y a du 68 art chez Philippe Murray.
Oui, alors ça, c'est moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que Philippe Murray, dont on accuse en permanence le côté réactionnaire, n'est pas du tout un réactionnaire au sens courant du terme. Un réactionnaire, c'est quelqu'un qui dit c'était mieux avant, c'était mieux à telle époque, c'était mieux, etc. Bon, lui, déjà, ne disait pas ça, il disait c'était mieux toujours.
Mais lui-même, Maxence Caron, est aussi très ancré dans son époque.
Oui,
parce que son style...
C'est ça. Alors, oui, j'y viens, justement.
Notamment pour parler des femmes et du corps des femmes, c'est un style libertaire.
Oui, alors, c'est justement cela. Toute la tension qui habite Murray se retrouve là. C'est-à-dire que d'un côté, donc, la réalité est un jeu de forces antagoniques, et de l'autre côté... lui-même veut trouver un équilibre entre ses forces antagoniques. Et il veut le trouver, cet équilibre, à côté des femmes. Et dans un équilibre qui est très clairement sexuel, oui...
C'est la nostalgie des années 70.
Oui, hein. Et libertin. Donc, oui. Quand on lit certains poèmes, ils sont très clairs. Cet âge d'or est que recherche Murray apparaît, mais en a-t-il conscience ? Je ne sais
donc
pas.
Donc c'est pour ça qu'il était bien aussi dans les années 70.
Alors, oui, peut-être. Enfin, s'il était bien, il y serait resté. c'est pour ça qu'il y a quelque chose, il y a une exigence intellectuelle qui, de toute façon, faisait qu'il ne pouvait pas s'en contenter. Simplement, l'âge d'or tel qu'il se représente apparaît d'une manière très connotée. Et donc là où on voudrait faire de Murray un réactionnaire qui pourrait rejoindre tel ou tel courant réactionnaire connu, eh bien non, il invente quelque chose, il invente un symptôme, il invente, un cas. Et ce cas, c'est celui de, du moderne réactionnaire. Finalement, c'est quelqu'un qui, peut-être sans le savoir, était profondément ancré dans un idéal qui est celui d'une insouciance libertarienne telle qu'elle existait fin des années 60, qui n'est pas 68arde pour autant, hein, pas du tout.
Après l'histoire contradictoire, ça redémarre, on fait la foire. C'est méritoire après l'histoire, et c'est déboire, faut en vouloir. Comme c'est bizarre, comme c'est trop tard, après l'histoire, faut en avoir. Dans ton peignoir, t'es belle à voir, même par les soirs d'après l'histoire. Après l'histoire, ça redémarre, après l'histoire, on fait la foire. Après l'histoire, comme c'est bizarre, après l'histoire, faut en avoir.
Eh bien, je défends l'esprit critique, la pensée des Lumières. J'ai le sentiment de développer... De poursuivre le travail des hommes des Lumières, le doute, la mise en doute, systématique. Dans un monde d'adhésion complet, le doute est est rafraîchissant.
Bref, Muret est un sensuel, un grand sensuel.
Mon bec quand tu l'avales, c'est cul sec. La mer en toi, c'est l'Atlantique, et je te traverse en musique. Allez, viens, 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 viens que je sorte mes habits, c'est l'heure où l'assassin jouit, et tu verras comment je cours mon navire dedans ta goutte. Ça s'ouvre et ça fait va-et-vient, viens que je vienne où tu veux bien. Ça vous prend dans la cathédrale au moment où sente l'espoir.
Muret et la misogynie, pour vous, François Taillandier, c'est un sujet?
Ça dépend ce qu'on entend par là. Ce que je pense, oui, c'est que... Mais ça, c'est pas de la misogynie. Muret a une thématique qui est une sorte de guerre des sexes. Il considère que probablement ce que veut la femme et ce que veut l'homme se recoupent parfois, mais n'est pas fondamentalement la même chose.
Voilà. Et que c'est bon que ce ne soit pas la même chose.
Et en plus, oui, et c'est là qu'il voit la source de l'éros, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça misogynie? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, on peut toujours porter un jugement moral là-dessus, mais je n'ai pas souvenir non plus dans ses écrits d'avoir lu des choses qui soient du mépris pour les femmes ou ceci, ça. Ce n'est pas ça le problème, je ne crois pas. Pardon, ce que je pourrais ajouter sur cette question, c'est que lui, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'un de ses diagnostics sur notre époque... concerne la fin du patriarcat, la destruction du patriarcat à tous égards. Et forcément, la montée en puissance d'une espèce de matriarcat généralisé. Alors ça, oui. Alors, je misogyne ou pas, mais enfin, c'est un de ces grands diagnostics sur notre temps, bien évidemment.
Anne Seyfried, oui, la misogynie de Philippe Muret, pour vous, c'est un sujet ou même pas?
Je m'attendais évidemment à la question. La misogynie, qu'est-ce que vous entendez par misogynie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'aime pas les femmes? Mais il adorait les femmes. Il adorait les femmes et il a eu surtout des amis IE, femmes. Il adorait parler avec les femmes. Il a eu très peu d'amis hommes.
Mais alors pourquoi les femmes, pourquoi il s'est intéressé autant?
Il adorait ça.
Oui, mais pourquoi les femmes l'énervaient autant? Parce qu'elles l'énervent aussi beaucoup.
Ah, bien sûr, elles l'énervaient beaucoup, évidemment. Mais il parlait qu'avec les femmes, avec moi, il parlait énormément. Il était intarissable. Sous le toit commun... il était absolument intarissable, il pouvait pas passer des heures, il pouvait pas regarder un film sans qu'il le commente à chaque minute. J'étais obligée de l'arrêter.
Mais pourquoi? Et pourquoi
et
les
il
femmes...
adorait ça. Et pourquoi,
pourquoi les femmes sont un sujet si important pour Philippe Muret?
Bon, les femmes qui l'intéressaient étaient des femmes qui savaient rire, déjà, ça, c'est assez particulier.
Pourquoi? Parce
elles ne sont pas toutes comme ça.
Parce que les femmes ont moins d'humour que les hommes.
Je sais pas, mais il faut que ça colle, avec l'humour des hommes, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qui l'agaçait chez les femmes?
Qu'est-ce qui l'agaçait? Mais il faudrait prendre les choses de plus haut, si je peux me permettre. Ce qui l'a stigmatisé, c'est l'indifférenciation, surtout. Et comment le monde faisait de moins en moins de distinctions. Voilà. Entre les hommes et les femmes, entre le père et les enfants, entre l'intime et le public. Comment tout ça cesse d'être séparé? Et si on pouvait un peu résumer son œuvre, en tout cas, au moins des 10 dernières années, c'est la, il a toujours réclamé que les choses soient séparées. Alors, voilà. Or, les femmes, par les temps qui courent, il est certain que c'est de moins en moins séparé. Il n'est pas question de savoir s'il faut le déplorer ou pas le déplorer. D'ailleurs, ce n'était pas son propos. Son propos, c'était de faire un état des lieux. Alors, avec évidemment des agacements, des choses qui peuvent être vécues comme misogynes, mais est-ce que les hommes sont exactement comme les femmes? J'en suis pas sûr non plus. Je pense qu'il y a une différence. Alors, vous dire que c'est absolument évident à vivre, je n'irai pas jusque-là.
Pourquoi ça peut s'exercer aussi contre vous?
Moi, c'est ridicule. Avec moi.
Et pourquoi c'est pas évident à vivre, alors?
Parce que c'est quelqu'un qui avait des idées très très arrêtées sur les choses et sur les femmes, comme vous le disiez, et sur la séparation, sur les territoires. Donc vivre avec quelqu'un qui a cette vision des choses et de la vie quotidienne, c'est très particulier évidemment. C'est assez rare, mais c'était quelqu'un de très particulier.
Mais la vie quotidienne, Anne Seyfriouy, elle reflétait ce qu'on peut lire de son œuvre.
Absolument, c'est-à-dire que, oui.
Je me demandais si dans la vie privée, si les conversations... ces détestations ou de ces agacements, parce que c'est... qu'il parlait...
Absolument, tous les jours, tous les jours. Tous nos dîners étaient une longue litanie de détestations. Et nous parlions énormément pendant nos dîners. Quand on se retrouvait le soir, et c'était le sujet essentiel, c'était la détestation, nourrie évidemment par l'actualité du jour, parce que comme vous le savez, comme il l'a beaucoup dit, et ça se voit parfaitement dans ses écrits, il lisait énormément la presse, et sa détestation était évidemment alimentée tous les jours.
Et vous partagiez?
Ça m'amusait beaucoup.
Oui. Est-ce que vous pensez la même chose que lui?
C'est un homme qui avait tellement de style qu'on ne peut pas ne pas être entraîné. You think I'll be my brother, don't matter if you're black or
white. Dès 20h, le 21 avril, les responsables politiques et notamment ceux de la gauche mirobolante de gouvernement se sont dotés avec une énergie remarquable de tous les moyens conceptuels et verbaux leur permettant de ne rien comprendre au rejet de grève dont ils venaient d'être l'objet. Et même quand ils ont effleuré la question, en déplorant par exemple le gouffre qui s'est creusé entre les élites et le peuple, ils se sont protégés de toute lucidité en se demandant la main sur le cœur. Comment on pouvait bien leur faire ça, à eux qui étaient si bons, qui étaient si jolis, qui avaient un si beau bilan, qui avaient promulgué de si belles lois, qui avaient su faire l'euro, tenu si bien leurs promesses, apporté de nouveaux droits et fait pleuvoir tant de cadeaux dans leur hôte de Père Noël. Les 35 heures, la RTT, le congé de paternité, la parité, le matronyme, les emplois jeunes, le PACS, etc. Oui, comment près de 20% des lecteurs avaient-ils pu préférer le bruit de bottes à leur bruit de hôte? En tout cela, ils ont aussitôt ressemblé aux Américains après le 11 septembre, quand ceux-ci se demandaient comment on pouvait tant leur en vouloir alors qu'ils étaient le bien planétaire incarné. Ils auraient pu reprendre à leur compte ce graffiti apparu sur les murs de New York après la destruction du World Trade Center. Si Dieu aime l'Amérique, qui peut tant nous haïr? Personne, n'en doutons pas. Personne de ce monde-ci. Personne de leur monde. Mais beaucoup de gens, sans doute, dans ce qu'il reste de l'ancienne réalité aujourd'hui en petits morceaux. Ils s'en sont vaguement aperçus sous le choc du discours de Le Pen qui s'offrait le luxe offensant d'appeler, lui, au rassemblement du peuple de France, ouvriers, métallos et mineurs. On s'est souvenu alors que dans le programme de Jospin, il n'y avait pas une seule fois le mot « ouvrier ». Le soir du premier tour, place du colonel Fabien, une vieille militante, paraît-il, demandait à travers ses larmes « Comment se fait-il que les ouvriers n'aient plus besoin de nous ?» Et c'est aussi ce que se sont demandés à leur manière tant d'artistes ébouriffants, tant de plasticiens et directeurs de théâtre réunis au Zénith, tous antilopénistes exemplaires, tous missionnaires de terrain. Comment se fait-il que les spectateurs n'aient plus besoin de nous? Et la question me paraît dépasser les ouvriers, les spectateurs et même le peuple. La question me semble concerner ce qu'il reste de la réalité. Et de ce point de vue-là, ceux d'en haut, comme on dit maintenant, ne sont pas au bout de leur peine.
«
il repère des choses, oui, et d'ailleurs c'est là qu'il écrit de très très beaux articles, des très beaux textes, mais il y a aussi, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition, vous voyez, comme un chat qui, face à un certain type de phénomène, a le poil instinctivement hérissé.
Philippe Lançon, le clivage gauche-droite, il fonctionne pour Philippe Muret ? C'est un homme de droite ?
Est-ce que c'est un homme de droite ? C'est-à-dire que, évidemment, c'est, votre question présuppose qu'on rentre dans une grille politique, vous voyez ? Une grille politique et même politicienne. Hein, donc, alors, oui, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il est de droite parce qu'il est effectivement anti-moderne et probablement pas du tout conservateur, mais réactionnaire. Ben, conservateur, il ne l'est absolument pas. Réactionnaire, il l'est, au sens où effectivement, il réagit à un certain nombre d'idées progressistes et surtout de leur mise en œuvre dans le discours politique. Hein. Ça, beaucoup, parce que de ce point de vue-là, c'est un écrivain politique. Alors, en ce sens, oui. Mais je pense que, d'un autre côté, on pourrait, très probablement, on trouve autant d'admirateurs de Muret à droite qu'à gauche, et au fond, pour les mêmes raisons, qui sont, je crois, celles que je vous ai dites. C'est-à-dire, d'abord, évidemment, une admiration pour son... ou un vrai plaisir pour le style, hein. Et ensuite, pour, effectivement, les cibles qui dégomment. Si on prend... La quinzaine anti-Le Pen, un très fameux texte au moment où Jospin est dégagé par Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Je connaissais moi-même, évidemment, à gauche, des tas de gens qui ne voulaient pas participer à ce qu'ils considéraient comme une comédie, vous voyez. Donc, et qui n'était pas forcément pour des raisons simplement de « on va pas voter Chirac », mais qui était aussi... exactement ce que Muret pointe, c'est-à-dire nous ne céderons pas à cette espèce d'élan de bonne conscience paniquée, quoi. Vous voyez, c'est pas ça, c'est pas faire de la politique, ça, c'est de la bêtise, vous voyez. Donc je vous dis pas que c'est ce que moi je pensais, mais je comprends très bien. Donc vous voyez, je pense que les grilles, dès qu'on les affine un peu, et surtout dès qu'on fait ce qu'on doit faire, dès qu'on parle de littérature, c'est-à-dire descendre jusqu'au lecteur, à chaque lecteur, alors la grande grille politique de « est-il de droite, est-il de gauche » ne fonctionne plus.
Mais la manière dont il parle de la gay pride ou de l'égalité désirée entre les hommes et les femmes, et on entend rarement des gens de gauche en parler comme ça.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, on trouve, il me semble, à droite, des gens qui sont très... qui ont été dans la gay pride, hein, et qui sont très gays, vous voyez, aussi. Donc, est-ce qu'il était... Oui, sur certaines choses, je pense qu'on peut le qualifier comme étant, effectivement, quelqu'un qui ne veut pas d'un... Mais encore une fois, mon analyse, c'est qu'il se... Il se fout moins des gays ou de la volonté des gays de vouloir avoir des discours. Comment les gens font valoir leurs droits ou ce qu'ils estiment être leurs droits dans l'espace politique, voyez. Et derrière ça, lui, ce qu'il voit, c'est toujours cette espèce de béatitude méchante et progressiste, voyez. Peut-être je me trompe, hein, mais je fais la différence entre le jugement sur qu'il aurait pu porter et que j'ignore, puisque je ne le connaissais pas, à proprement parler sur les homosexuels, etc., etc., et sur le discours qui est porté par ceux qui les représentent à tel et tel moment, et qui donc portent une parole dans l'espace politique. Je pense que c'est ça, la cible. Voilà. Et donc, je ne pense pas que, il soit forcément anti-gay, ou etc. Enfin, en tout cas, moi, je ne lis pas comme ça. Vous voyez ? Donc, je ne pense pas non plus qu'il soit forcément anti-socialiste, etc. Mais, évidemment, il attaque très violemment les discours de Ségolène Royal, par exemple. Vous voyez ? Mais Ségolène Royal est une personne politique qui porte... un certain discours, une certaine pratique à un certain moment. Par ailleurs, ce n'est pas un homme politique, Muret, c'est un écrivain. Donc il ne faut pas le lire comme on lit un discours politique. C'est-à-dire que chez un écrivain, il peut y avoir un discours politique dans le corps du texte de l'écrivain. Je veux dire, il peut être porté par un discours. C'est un pamphlétaire. Donc il y a ça. Et il ne s'agit pas de le déresponsabiliser. Il porte réellement ce discours. Mais il n'est pas réductible aux analyses qu'on fait de ce discours. C'est-à-dire que il joue avec un écrivain, c'est quand même un type qui dit dans mon livre, dans mes textes, j'écris ce que je veux, comme je veux, et je suis libre, y compris dans mes contradictions. Et si vous pensez, vous commencez à faire de moi un homme politique ou quelqu'un, comme on l'entend souvent aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous proposez, vous ? Mais ce n'est pas le rôle, il n'est pas là pour avoir un programme, vous voyez, ce n'est pas son rôle. Il est là pour dégommer des cibles, créer des personnages, des mouvements, des caricatures qui sont l'équivalent, à mon avis, des personnages qui existaient dans Balzac, qu'il aimait par-dessus tout. C'est-à-dire que c'est des... Il a créé des personnages à partir de discours et d'idées politiques existantes, qu'il sentait dans l'air du temps, et dont il fait une sorte de roman, vous voyez ? C'est son roman à lui, sa comédie humaine à lui, mais il l'a dit d'ailleurs, sa comédie humaine à lui, c'est ses articles et pamphlets successifs qui pointent ça.
Je te filerais un coup de plantoir, si t'étais pas la fin de l'histoire, si t'avais pas l'âme au placard et les mandolines au beurre noir. Avec un plaisir emphatique, je te remplirais ta boutique, tu verrais voir ma dialectique, si t'étais pas devenu mutique. Si t'étais pas la fin du monde, je m'enverrais ta bac-monde. Je m'occuperais de ta rotonde et de tes sphères vagabondes. Si je pouvais, dans le réel, te rejoindre encore à tire-d'aile, je saurais bien, ma tourterelle, te faire briller jusqu'à la moelle, te faire sauter toutes les rondelles, grimper ta pression artérielle, et perforer ta ritournelle et défoncer ta citadelle. Si t'étais pas à la fin du jour, tu aurais encore de l'humour, et c'est à coup de calembour que j'entrerais dans ta basse-cour.
Voilà, alors, j'ai quelque chose de pas mal. Dans le côté, justement, dans sa manière d'essayer de creuser le délire de l'époque, de le faire aller encore plus loin en se le réappropriant. Alors, c'est à la fin d'un article d'Exorcisme Spirituel 4 qui s'appelle « Carré de grève sur fond de grève ». Donc, référence à Malevitch, au carré blanc sur fond blanc. On reste confondu devant les démonstrations de ces intermittents martyrs qui se barbouillent de rouge sang pour, tout de noir vêtu, faire semblant d'aller s'écraser contre le mur du palais des papes en criant « Grève, grève !» Et on est plus encore effaré de voir des journalistes félicitant ces imbéciles d'avoir retrouvé les couleurs de la grève, le rouge et noir mêlés de la tradition anarcho-syndicaliste. Alors que ces troglodytes sacrificiels sont tout de plus des anarcho-chiites, des anarchiites, qui n'ont même pas le cran de s'ouvrir la tête à coups de sabre. On est ahuri de lire qu'à Toulouse, la ville où il y a maintenant une plage comme à Paris, des intermittents et militants végétariens se sont rassemblés nus place du Capitole. Pourquoi des végétariens ? Pourquoi pas des végétaliens ? Des acupuncteurs, des presse-purées, des orangs-outans. Donc vous voyez un peu, voilà. Donc, il cite, il y a beaucoup de citations de la presse dans ce petit passage. Et puis il les redouble, voilà, jusqu'à aller vers le n'importe quoi, en fait, vers une sorte d'absurdité qui est l'apothéose, qui part d'une citation. Voilà, il fait grandir la citation jusqu'à une sorte de n'importe quoi complètement libéré.
Et le rire de Philippe Meret et Alexandre de Vitry, pour vous, c'est de la raillerie ou
Oui, c'est un rire différenciateur, un rire qui crée une frontière, justement, qui crée une séparation entre lui et le monde. C'est un rire pour son lecteur, pour le lecteur qui apprécie, qui aime Muret, qui est justement un rire rassurant, un rire de rencontre entre l'auteur et le lecteur, mais qui pose une frontière très forte face au monde. C'est un rire cruel, un rire baudelairien.
Que ça donne, Anne Seyfried, des enfants auxquels on explique que l'époque dysfonctionne.
On leur dit pas tout, et puis c'est pas tout à fait vrai non plus. Je rappelais souvent à Philippe que la postérité, bon, c'est bien gentil et bien facile de cracher dessus, mais enfin, que s'il veut qu'on lise un jour ses livres, il faut bien qu'il y ait des enfants et que quelques-uns s'occupent d'en procréer pour qu'ils soient lus quelques décennies plus tard. Alors ça, évidemment... Mais non, il avait de l'affection pour mes enfants, mais en même temps, bon, c'était pas son sujet. C'était pas son sujet, les enfants le savaient. Voilà, on s'est accommodé tant bien que mal de ce climat familial assez particulier.
Vous avez continué à voir beaucoup de monde pendant votre vie commune, comme lorsque vous l'avez rencontré? Vous disiez qu'en 1971, c'était...
Non, l'atmosphère a changé. Après, c'était un petit peu différent. Tout le monde s'est un peu rentré dans sa case. Il fallait travailler. On prenait de l'âge. On faisait des enfants. Donc, les préoccupations n'étaient plus les mêmes. Les gens moins disponibles. Et on voyait, nous, assez peu... Enfin, oui, bien sûr, on avait des amis, mais... De cette époque-là, d'ailleurs, nous en avons gardé, de cette époque 68-arde, post-68-arde. Voilà. Mais, puis bon, le monde a changé. Beaucoup d'années se sont passées. On ne pouvait plus penser les choses de la même façon, ni voir les choses de la même façon.
Et vous avez été seule à évoluer dans la direction qui était celle de Philippe Muret, enfin, vous deux, vous êtes isolés?
On s'est un peu isolé, c'est certain. Oui, c'est certain, oui. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas? C'est pas très grave.
Qu'est-ce qui l'enthousiasmait, François Talandier? Qu'est-ce qui faisait qu'il arrêtait de se battre et de batailler et d'en découdre?
À ma connaissance, pas grand-chose. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il y a une chose qui a été la passion de sa vie, c'est certainement la littérature. C'était Flaubert, c'était Giono, c'était enfin toutes sortes, c'était Balzac. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'on veut toujours lui tailler un costume d'idéologue, enfin de penseur. C'est d'abord quelqu'un de totalement écrivain, totalement littéraire.
Comment vous pourriez définir, Alexandre de Vitry, le style de Philippe Muret? C'est pas un style, c'est un style classique, mais c'est un style qui est de son époque.
Oui.
Il n'essaye pas de mimer les auteurs classiques dans la lignée desquels il peut s'inscrire. Il emploie les mots de l'époque et pas uniquement avec ironie.
Non, on n'est pas exactement dans l'ironie, oui, avec ça. Il se réapproprie complètement tout le vocabulaire de l'époque.
Et même une syntaxe.
Même une syntaxe, oui, il y a une grande liberté syntaxique, stylistique dans sa prose qui donc est à la fois irrigué par toute une tradition littéraire, quand même, voilà, c'est un langage de haute tenue, très riche, et en même temps volontairement libéré, parfois oral. Il y a énormément de phrases nominales. Bon, c'est un langage très relâché. Et surtout, une de ses grandes ambitions, c'est de faire rentrer la langue de l'époque dans la littérature. Alors, ce serait trop facile de simplement parler d'ironie quand il prend la fête des voisins, immeuble en fête, la fête des voisins, il la prend au sérieux en quelque sorte cette expression. Il fait pas seulement que dire « Ah, c'est ridicule, regardez cette expression ». Il essaye de la prendre au sérieux dans son caractère certes un peu ridicule, mais il veut aller encore plus loin. Et donc il reprend un peu comme ça énormément de néologismes de l'époque, et puis il les redouble, hein. il les décline, il en invente encore d'autres, etc. Il essaye finalement de creuser encore le sillon creusé par l'époque elle-même. Donc sa manière de s'approprier la langue environnante est pas seulement, voilà, comme on pourrait simplement mettre entre guillemets, en montrant du doigt, en indiquant ce qui est ridicule dans notre langage contemporain. Il s'agit de le prendre et d'en faire une matière, en quelque sorte, une matière à travailler pour en tirer un objet, une œuvre d'art, un objet littéraire.
Et vous, Alexandre de Vitry, vous avez quel âge?
25 ans.
Et vous avez lu Philippe Muret à quel âge, pour la première fois?
À 20 ans, dirais-je, oui.
Et ce qui vous a plu, c'est que vous y trouviez l'écho de ce que vous pensiez de votre époque?
Eh bien, pas vraiment, parce que je pense que... Ce serait très prétentieux de ma part ou de la part de quiconque de dire qu'il trouve dans Muret ce qu'il pensait depuis toujours. Mais en revanche, j'ai découvert une pensée complètement nouvelle qui m'a... Enfin, non seulement intéressé, mais je dirais presque bouleversé. Enfin, c'était vraiment un choc intellectuel et esthétique très fort. Et donc, j'ai compris que cet écrivain était important. Voilà. Et donc, c'était le moment où j'étais en plein milieu de mes études. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais travailler sur cette personne parce que, à l'époque, il était encore assez méconnu, même s'il avait une petite notoriété. Et qu'il me semblait important de le considérer comme un écrivain. Hein, et son œuvre comme une œuvre littéraire, alors qu'on avait à ce moment-là, on l'a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais tout de même, l'image d'un éditorialiste, en fait, d'un penseur dans le meilleur des cas, mais généralement d'un auteur de billets d'humeur, un petit peu ce genre de personnage, oui, un éditorialiste de quotidien. Lire Muret aide beaucoup à vivre dans ce monde. Et puis après, pour ma part, je trouve ce monde très habitable, bien sûr.
Tu ne trouvais pas qu'il y ait des détestations qui, au bout d'un moment, sont étouffantes ?
Écoutez, moi, ça ne m'a jamais étouffé, parce que je pense que j'ai arrêté probablement de lire avant de m'étouffer, vous voyez. Je pense aussi qu'il faut comprendre que la plupart de ces textes ont été écrits peu à peu, si on parle de après l'histoire, enfin de et beaucoup, vous voyez, ici et là, c'était un franc-tireur, Muret. Hein. Donc il écrivait, dans des revues, dans des journaux qui étaient aussi des journaux plutôt franc-tireurs, voyez. Et d'ailleurs qui étaient, à mon avis, dans la nature des choses. Je ne sais pas s'il en a écrit, mais enfin des textes de Muret dans Le Monde, ça n'aurait pas eu grand sens, quoi. Vous voyez, je veux dire, dans Le Figaro peut-être un peu plus, surtout quand la gauche était au pouvoir, mais en tant que Le Figaro était à ce moment-là un journal d'opposition. Mais en même temps, je pense que fondamentalement, sa place n'était pas là non plus aussi, vous voyez. Figaro ci, Figaro là, tout ça est ridicule. Donc sa place était effectivement dans l'idiot international, dans des endroits comme ça. Non pas dans des mauvais lieux, parce que je trouve que c'était des lieux tout à fait fréquentables, mais des lieux effectivement par nature à la marge. Et c'était là que le discours portait aussi. Hein. Donc, et justement qu'il n'était pas marginal, parce qu'il était dans ces endroits-là. Il l'aurait été s'il avait été publié dans Le Monde, dans Libération, ou dans des journaux ou comme ça, vous voyez, ou dans Le Figaro aussi, je pense. Même si peut-être il y en a eu dans Le Figaro, mais je n'en sais rien.
C'était Une ville neuve, Philippe Muret, une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Anne Seffrioui, François Taillandier, écrivain, auteur de Le Père du Tour, publié chez Stock, Philippe Lançon, critique littéraire au journal Libération, Maxence Caron, écrivain, et Alexandre de Vitry, écrivain. Documentaliste INA, Brigitte Descroix. Vous avez pu entendre des extraits de Minimum Respect, le recueil de poèmes de Philippe Muret, scandé en musique par Philippe Muret, disponible en CD à partir du site de Philippe Muret. Prise de son Andréas Jaffré, Patrick Etienne et Fabien Gosset. Mixage Manon Houssin. Attaché de production Anne de Biran. Extrait de texte issu de Festivus Festivus, les entretiens de Philippe Muret avec Elisabeth Lévy, publié chez Flammarion.
Philippe Muret aujourd'hui dans Une vie, une œuvre. C'était une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin que je remercie toutes les deux, bien entendu. Vous pouvez la réécouter directement sur notre site ou la télécharger pendant une semaine en vous abonnant au podcast. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire, nous vous en remercions. La semaine prochaine, l'histoire de Maria Yudina, la pianiste de Staline, qui a su s'opposer au tout-puissant dictateur tout en forçant son respect. Ce sera la rediffusion d'une émission d'octobre dernier. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.